À l'automne 2006, le journal dit de gauche, Le Nouvel Observateur, devait publier un hors-série sur les paradoxes du capitalisme. Finalement, une grande partie des textes, et en fait les plus critiques ou ceux qui présentaient des alternatives, ne sont pas parus. Et le hors-série s'est appelé « Comprendre le capitalisme ». Le journal Politis s'est fait l'écho de l'affaire et les analyses censurées ont été éditées par la dispute dans un livre intitulé « Peut-on critiquer le capitalisme ?» Effectivement, la question mérite d'être posée, on le voit rien qu'à cette affaire. Alors le philosophe Dany Robert Dufour, que vous allez pouvoir entendre, va plus loin, lui, dans son livre « Le divin marché », puisqu'il affirme que le libéralisme s'érige en dogme via une entreprise à la fois politique, culturelle et économique. Le libéralisme est en tout cas le grand vainqueur du moment, et en particulier grâce aux classes populaires qui, paradoxalement, le subissent de plein fouet et le soutiennent dans les urnes. C'est ce que nous expliquera Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique, qui a préfacé le livre de Thomas Frank, sorti chez Agone, et intitulé « Pourquoi les pauvres votent à droite ?». Alors pour alimenter cette réflexion autour de nos croyances libérales, on commence par écouter le politologue Bruno Etienne qui prépare un livre appelé « La Trinité » autour des trois grands E, Église, État et Entreprise.
C'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est Église, État, Entreprise. C'est-à-dire que je me suis posé la question, comment on est passé en Europe occidentale de l'hégémonie de l'Église avec un grand E, puis à l'hégémonie de l'État avec un grand E. Et puis le troisième, c'est aujourd'hui, on a cru qu'on s'était débarrassé du religieux, on a cru qu'on s'était débarrassé de l'État, et on a maintenant un troisième larron qui arrive, qui est l'entreprise, qui est la panacée, qui est la réponse à tous nos problèmes, avec encore là aussi des inversions de sens de mots. C'est-à-dire que la liberté a produit trois adjectifs, libertaire, libertin et libéral. Alors on a quitté l'Église, on est devenu libertin, puis on a attaqué l'État, on est devenu libertaire, et aujourd'hui on est libéral, mais ça veut dire quoi? La liberté pour quoi faire? La liberté pour aller au supermarché le samedi et le dimanche au lieu d'aller à la messe. Par exemple, pour la région marseillaise, c'est assez hilarant de découvrir cet amour immodéré que les Français ont pour le travail. Pourquoi on veut travailler? Après tout, on pourrait ne pas travailler. Les Indiens d'Amérique, ils ne travaillaient pas, ils ne se portaient pas plus mal que nous. Deuxièmement, le débat sur le plan de campagne. Comment on est dans une société où les gens sont complètement aliénés par le boulot, par le métro dodo, enfin les slogans rigolos. Et ils veulent à tout prix, encore en plus, aller librement, c'est leur choix individuel, dans le consumérisme capitalistique qui contribue à les aliéner encore un peu plus en les endettant, en les mettant dans les embouteillages le samedi, le dimanche. Donc c'est ça que je veux dire, plutôt que d'aller à la messe. Bon, je m'en fous, je ne suis pas catholique, mais il faudrait mieux d'aller à la pêche ou au temple, à penser, plutôt que d'aller dépenser. Voilà. La mondialisation produit un supermarket des biens religieux dans lequel chacun est libre de choisir. C'est ça la nouveauté. Avant, vous étiez dans un registre religieux qui vous était imposé, dont vous pouviez sortir, c'est tout. Aujourd'hui, vous pouvez bricoler. C'est ça qui est extraordinaire. C'est mon choix, j'en ai rien à foutre, je prends un peu de bouddhisme, un peu de droit de l'homme, un peu de socialisme, un peu de capitalisme, et j'ai ma voiture personnelle automobile qui est devenue un enjeu fondamental, et je vais à plan de campagne, je suis libre de choisir dans les marchandises qui me sont proposées. C'est surréaliste. Bon.
My jogging shoes. My wife, she woke up.
Alors comment on en est arrivé là? Bon, moi j'ai
Bruno Étienne.
Depuis 45 ans, je travaille sur les phénomènes religieux et idéologiques. Une des clés que je propose, c'est l'effondrement de l'Empire colonial. Parce que on a largement oublié, en ces temps de mémoire et de loi mémorielle, que la Troisième République a pu nous amener aux Trente Glorieuses, ben parce qu'elle était colonialiste. C'est-à-dire que c'est elle qui a fondé, avec des arguments légitimes, les droits de l'homme, les valeurs universelles, la laïcité, qui pour nous, pour moi en tout cas, sont non pas des plaisanteries idéologiques, mais des séquences idéologiques situées dans l'histoire précise d'un groupe social précis, c'est-à-dire la petite bourgeoisie laïque du début de la Troisième République. Bon, mais tout simplement parce qu'elle était colonialiste. Et bon, aujourd'hui, moi, je donne des dates symboliques. 1954, Dien Bien Phu, début de la guerre d'Algérie. 1973, 80, le regroupement familial. Aujourd'hui, la France est redevenue plurielle, conflictuelle, etc. Et l'État est incapable de gérer ça. Les églises, non, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de retour du religieux. Il n'était pas parti au galop. Mais il y a un retour au religieux, c'est-à-dire à des identités archaïques. Pourquoi ? Parce que les structures légitimes qui produisent du sens, donc qui disent l'ordre du monde, la citoyenneté, ne répondent plus aux angoisses de nos compatriotes. Et là-dessus débarque comme Zorro l'entreprise. Voilà, l'entreprise qui va nous sauver. Bon. Et le drame, c'est qu'on est toujours sur l'idée que c'est les valeurs du dernier arrivant qui sont universelles. Alors aujourd'hui, les débats sur les droits de l'homme, sur la laïcité, il y a de quoi mourir de rire. L'idée que les valeurs produites par la bourgeoisie française sont universelles, c'est une des grandes plaisanteries. Alors, quand on est savant, on dit aporie de l'histoire, etc. Mais pour moi, c'est une des grandes plaisanteries. Parce que la seule chose qui est permanente dans l'histoire de l'humanité, c'est l'impermanence. Tout bouge, comme disent les bouddhistes. Voilà, tout change, voilà.
Alors, est-ce que ces trois grands E, ils se juxtaposent ou ils se succèdent? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même juxtaposition entre l'entreprise, au moins, si l'État est de moins en moins présent, juxtaposition entre l'entreprise et l'Église? Il y a quand même des retours.
Les trois E sont à la fois emboîtés chronologiquement et concomitants dans le temps. Simplement, ils changent de visage. Hegel montre comment l'idée absolue de l'État, c'est l'idée absolue de l'Église. Et donc, ils vont cohabiter, ils vont être concurrentiels pour dire l'ordre du monde. Et aujourd'hui, même aux États-Unis, jamais l'État est autant intervenu dans les affaires du marché. Les dénationalisations, les nationalisations gaulliennes ou mitterrandiennes, c'est du pipeau à côté de l'interventionnisme américain. Donc, il n'y a pas une espèce de courbe qui irait du mal jusqu'au bien, du bien jusqu'au mal, pas du tout. Tout ça est emboîté en même temps, sauf que ça change de forme. Parce que quand vous dites église aujourd'hui, si on pense aux grandes églises économiques internationales, moi je penserais à Moon, par exemple. Moon et Scientology sont des grandes églises capitalistiques. Alors, je crois qu'il y a coexistence, cohabitation et concurrence. Et que tantôt les uns, tantôt les autres apportent leur soutien, prennent de plus ou moins de pouvoir. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à la fois le Parti communiste reste d'une puissance extraordinaire aux États-Unis, en Chine? Moi, je pense que c'est Confucius. C'est-à-dire le statut de référence et d'obéissance à l'autorité, qui est la caractéristique du confucianisme, a été magnifiquement utilisé par le Parti communiste chinois, qui, à mon avis, n'a rien de marxiste. Par contre, il a eu de marxiste quelque chose dans sa lutte contre le Kuomintang, c'est-à-dire le parti nationaliste, à partir de la nationalisation des terres et de la remise des terres aux paysans, ce qui s'est fait partout, au Mexique, en Égypte, etc. Ce qui aujourd'hui est en contradiction avec l'urbanisation, puisqu'on pique les terres aux paysans pour urbaniser une partie de la société capitalistique à la chinoise. De la même façon que Le capitalisme nippon, japonais, n'est pas du tout. Il est fondé sur la relation Kohai-Sampai et non pas sur la relation d'entreprise. Mais en même temps, il a les performances de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le Japon est passé de la féodalité à la bourgeoisie militariste en sautant l'avènement historique d'une bourgeoisie marchande. Donc, même le mode de production capitaliste dit libéral et le marché aujourd'hui va réserver des surprises parce que l'entreprise, elle n'a pas la même c'est pas la même chose métal et une entreprise chinoise ou japonaise. Alors, c'est intéressant que ce soit l'Inde qui soit à la tête de la pulsion innovatrice capitalistique sur le plan technologique. Ça, c'est intéressant. Donc, il ne s'agit pas des églises, il s'agit du fait que comment une société, là on a trois exemples, la société américaine en perdition, la société indienne en avancée, la société chinoise en contradiction avec trois systèmes religieux complètement différents, mais moi que j'appelle système religieux plutôt cosmologie, c'est-à-dire quelle est la conception de l'homme dans le cosmos, quelle est la finalité de l'homme. Et là, à la traîne de tout ça, cocorico, la France qui nous parle des droits de l'homme. Et moi, je crois que je rêvais hier, j'ai entendu M. Fillon dire « les droits des femmes et des hommes sont égaux en Afghanistan ». Alors, c'est hallucinant. Ou il y croit, ce qui est dramatique, ou il nous prend pour des cons, ce qui est encore pire. Bon, je veux dire, la conception des droits de l'homme n'est pas partagée par la totalité de l'humanité. Bon, donc moi, comment je traduis ça en termes? C'est comment l'humanité articule immanence-transcendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui tire l'humanité vers le haut? Et qu'est-ce qui fait qu'à des moments, bon, elle choisit plutôt le matérialisme, aujourd'hui ce que moi j'appelle le consumérisme capitalistique, qui me paraît dans l'aliénation de l'homme plus performant que l'aliénation ecclésiastique. C'est le gendre de Marx, la femme, qui rappelait qu'au Moyen-Âge, les gens ne travaillaient que 180 jours par an, tellement il y avait de fêtes religieuses. Vous voyez? Alors que c'est le capitalisme aujourd'hui n'a plus besoin ni des femmes ni des ouvriers, il a besoin de la courbure de l'espace-temps pour le profit virtuel. On est dans une toute autre société. Il n'y a plus d'entreprise. Aujourd'hui, bon, vendredi, vous êtes le patron de n'importe quoi, de Microsoft, hein? Bon, vous avez un trader, un conseiller fiscal ou un golden boy qui vous dit « On achète ce soir à la fermeture de la Bourse de Londres 100 millions d'actions du shampoing chinois Tartampion. Mais on les revend lundi matin à la Bourse de Tokyo avant l'ouverture de celle de Paris. On a gagné 100 briques. » Vous ne croyez pas qu'ils vont faire des entreprises avec des ouvriers, non? Donc c'est ça la courbure de l'espace-temps qui a été donnée pour la spéculation financière virtuelle, car en plus ils n'ont rien touché, ils ont touché un ordinateur. Donc pourquoi je termine par entreprise? Parce que déjà elle n'existe plus. Déjà elle n'existe plus. C'est même pas le marché libre, je veux dire, ça veut rien dire. Le marché a été sensible à la déclaration de Bush. Non mais tu rêves ou quoi? Le marché, il est sensible qu'à une chose, à l'offre et à la demande. Or, ce qui a changé, c'est qu'avant il y avait une offre de biens et de prestations, aujourd'hui, il y a une offre de services virtuels. Donc, le grand E de l'entreprise, il est déjà mort. C'est un cadavre embaumé. Les entreprises elles-mêmes n'arrivent même plus à contrôler leur propre flux interne.
Dany Robert Dufour, vous avez récemment publié un livre intitulé « Le divin marché, la révolution culturelle libérale ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par ce titre « Divin marché » ?
C'est un titre qui est un peu provocateur, puisque le divin, en général, n'est pas attaché à des questions aussi basses que le marché. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que nous avions affaire à une nouvelle religion. Ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est qu'il s'agit d'une affaire qui ne date pas d'hier, puisque les prémices de la pensée libérale ont été posées dès, disons, le tournant 1700, à la suite donc d'une délibération qui s'est passée chez les théologiens, parce que c'est ça qui est étrange, c'est que le marché n'est pas une invention de marchands, mais c'est une invention de théologiens, Vous savez que l'obsession des théologiens, c'est toujours de nous sauver. Et donc c'est là que s'élabore progressivement une réponse extraordinaire qui met au jour ce qu'il pense être un plan secret de Dieu pour sauver les hommes en dépit d'eux-mêmes. Et ceci s'énonce pour la première fois en 1704-1705 par un dénommé Bernard de Mandeville, qui est un calviniste, médecin, qui habite Londres, qui écrit une fable extraordinaire qu'on trouve sur l'internet, et qui s'appelle la fable des abeilles, et comme dans toute fable, il y a une morale de cette fable, et je vous dis littéralement cette morale, c'est les vices privés font la fortune publique. C'est-à-dire que il suffit que les hommes, au lieu donc de réprimer leurs vices pour devenir vertueux, laissent libre cours à leurs vices, c'est-à-dire l'appât du gain, l'amour de soi, le fait de mentir pour défendre au mieux ses intérêts. Il faut laisser libre cours à tout ça parce que ceci accroît la fortune publique. Et tout ça est devenu, en quelque sorte, la morale quelque peu immorale, mais en tout cas la morale qui est devenue progressivement actuelle, la nôtre, celle du marché. Voilà, donc je crois que nous avons affaire là à une nouvelle religion. C'est pour cette raison que j'ai appelé mon livre « Le divin marché ».
Et Adam Smith, le grand théoricien du libéralisme, était théologien ?
Il y a un très beau livre qui est paru il y a 3 ou 4 ans de François Dermange, qui s'appelle « Le dieu du marché » et qui montre qu'effectivement, Adam Smith était un théologien et qui se préoccupait donc de philosophie morale. Et il y a toute une connotation religieuse chez Adam Smith également, qui concerne très directement le marché, puisque on a affaire là à donc ce qu'il appelle la main invisible du marché, l'esprit caché du marché, qui part donc de ce qu'il appelle le self-love, l'amour de soi, les intérêts privés, la défense à tout craint de ses intérêts privés, qui peuvent s'auto-harmoniser, c'est ça, par la magie, si vous voulez, de la main invisible qui auto-harmonise, qui auto-régule l'ensemble de ses intérêts privés au profit des ou de la nation et qui permet à la nation de s'enrichir. Donc Adam Smith reprend en le blanchissant le propos de Bernard de Mandeville. Il ne s'agit plus là de vice, il s'agit simplement de l'intérêt privé. Et donc c'est l'affirmation que chacun doit pouvoir défendre au maximum, bec et ongle, ses intérêts privés. Et il y a toujours dans le libéralisme, au fond, une idée religieuse, puisque qu'est-ce que nous promet au fond le libéralisme? C'est la production infinie de la richesse. Vous voyez d'ailleurs comment tous les discours sont centrés, sont hantés par l'idée qu'il faut accroître le PNB, la richesse, etc. etc. Et nous sommes lancés dans un processus sans limite, guidé par une sorte de main invisible qui va nous amener une richesse infinie, une richesse fabuleuse. Ce qui est hautement discutable si on y réfléchit un instant et qu'on sort du dogme, parce qu'on a affaire là quand même à un dogme de nature religieuse, qu'il le veuille ou non, même si le dogme peut s'exprimer par des lois mathématiques, comme s'emploient à le faire des économistes mathématiciens, qui ne font que vérifier, au fond, à l'infini, ce principe donc de l'accroissement infini de la richesse. Ce qui est hautement probable, c'est que cet accroissement de l'infini de la richesse rencontre, tout simplement, la finitude du monde, c'est-à-dire la finitude des ressources dans le monde, la finitude qu'on commence à connaître maintenant, finitude des ressources en pétrole, en énergie fossile, en air, en eau, etc. Et donc, le principe de l'économie marchande se heurte à ce qui régit l'économie du vivant, en fait, qui, elle, est limitée, en quelque sorte. Ce réel-là, ce réel du vivant dans lequel nous sommes, hein, lui, il commence à répondre par des symptômes sévères qui se manifestent par réchauffement climatique, réduction de la diversité des espèces, propagation virale, etc. etc. Ça, c'est le réel. Et ça, pour l'instant, le libéralisme n'en tient pas compte. Il s'aperçoit qu'il s'est engagé abusivement dans une bulle spéculative, mais c'est pour en reconstruire aussitôt une autre. Et en fait, la vraie butée, il ne la rencontre jamais. Jusqu'au jour où il la rencontrera véritablement et ses symptômes, ceux que nous subissons déjà, se transformeront en une maladie qui peut être extrêmement dommageable à l'humanité même.
politologue Bruno Etienne. Est-ce que vous analysez le marché comme étant divin ?
Ça n'a aucun sens. Ça, je veux dire, le titre du bouquin, c'est pour attirer le lecteur. Si ça veut dire « est-ce qu'il y a de la divinité dans le marché ?», ça n'a aucun sens. Si ça veut dire « le marché est devenu une idole », comme la Bible prévoyait avec le dieu Mammon, le dieu de l'argent, il faut expliquer. Il est absolument impensable, imaginable qu'il y ait quelque chose de divin dans le mercantilisme. Si il s'agit d'un titre accrocheur, c'est un problème d'éditeur, ça ne m'intéresse pas. C'est pour faire vendre, ce qui est une contradiction d'ailleurs intéressante. S'il s'agit de dire le marché a remplacé la transcendance, ou tout au moins les acteurs sociaux considèrent que la règle du nec plus ultra, c'est la règle du marché, c'est une déviation de la pensée, qui n'est pas divine, mais qui est diabolique. C'est pour ça que je fais appel au dieu Mammon, c'est-à-dire le dieu de l'argent. Alors, je vous cite un texte de l'Apocalypse pour que vous compreniez bien. « Et les colonnes du temple de Mammon dans Babylone, la putain, s'effondreront par les nuées venues du ciel. Et ils pleurent les marchands et ils se réjouissent les justes. » Apocalypse de Saint Jean. C'est intéressant l'histoire des religions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les twins sont tombés sous les nuées venues du ciel. Ce qu'il y a de diabolique et non pas de divin, c'est que même à Abu Dhabi, et à Marseille, on va faire des tours de 140 mètres de hauteur. Ça, c'est l'idéologie prométhéenne. On va vaincre la transcendance. Or, c'est pas vrai. Bon, si maintenant, ça veut dire nos pauvres compatriotes aliénés ont remplacé Dieu par le marché, je suis malheureusement d'accord. Parce que pour moi, le marché, il est... Je suis pas croyant, hein, mais je parle en anthropologie. Il est satanique. Le don et le contre-don et la relation dialogique chez Marcel Mauss, ça n'a rien à voir avec les lois du marché. Alors, le marché donc est devenu, non pas tout à fait un dogme, mais une illusion, une panacée illusoire, de la même façon qu'on a pensé que l'État allait tout résoudre. De la même façon que, pendant 4 ou 5 siècles, on a pensé que l'Église apportait une solution à tous les problèmes. C'était le vieux révolutionnaire Cabé qui disait « qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église catholique ?» Parce que ça ne s'est pas passé avec d'autres religions. On attendait le royaume, et c'est l'Église qui est venue. C'est-à-dire, on attendait le royaume, c'est-à-dire l'espérance, la cité idéale. Et qu'est-ce qui est venu ? Une structure structurante. Et là, on a le même problème avec la révolution russe. On attendait que les producteurs libres décident de la production, et on a construit l'appareil du goulag. Bon, sauf que dans le cas de l'entreprise, la séquence historique avec l'accélération de l'histoire est beaucoup plus courte que celle de l'Église en Europe. Hein. Elle dure 5 siècles. Celle de l'État, elle dure 2 siècles. Celle de l'entreprise, elle est déjà finie. Ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui va advenir après ? Je ne sais pas. Il y a des scénarios de science-fiction qui sont vachement intéressants. Peut-être que, comme les Pilgrim Fathers ont quitté l'Europe, sont partis en Amérique, votre génération, elle partira sur Mars ou ailleurs. Je veux dire, on quittera la Terre, j'en sais rien. Mais je me pose la question. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait une humanité après celle-ci. Alors, mais regardez le débat sur les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Alors on va pleurer parce que Madame Tartampion a travaillé le 110 mètres brasse, alors qu'on sait tout ça, que c'est de la gonflette pour les entreprises pharmaceutiques qui ruinent la sécurité sociale. Je veux dire, qui va arrêter ce processus ? Moi, je suis prêt à l'arrêter. Moi, je suis prêt à vivre dans un monastère, je m'en contrefous. Mais qui va le proposer ? Qui va... Vous vous rendez compte ? Une campagne électorale qui va dire non. On ne va plus construire de route pour les voitures. Vous allez aller à pied. Il perd les élections. Vous y êtes ? Bon, là, par exemple, dans les errements sur l'Afghanistan, pourquoi on ne nous explique pas que l'Afghanistan est redevenu le premier producteur-vendeur d'opium du monde, alors que les talibans avaient suspendu la culture de l'opium ? Ah, je ne peux pas dire ça. Ça y est, je suis un islamiste radical, etc. Vous voyez, on est dans la fausseté phénoménologique constante. Alors, après, il y a les baleines, les ours blancs. Mes petits-enfants, ils sont sans doute nettement plus écologistes que ce que nous l'avons été. Ah oui, mais avec quels moyens de décision ? C'est pour ça que je reviens à l'entreprise 30 secondes. à Madame Truc, là, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Madame du MEDEF, Attal va décider de supprimer une usine. Sarkozy, il a fait de l'agitation brownienne, comme il fait toujours. L'État va donner encore des millions qu'on n'a pas. L'État ne donnera rien du tout. L'usine sera fermée. Parce qu'aucun gouvernement de l'Europe libérale, démocratique actuelle ne peut s'opposer au système de la courbure de l'espace-temps financière. Métal, c'est en Inde. Vous savez ce qui est arrivé à Gemplus? Bon, c'est les puces électroniques, hein, à Gemnos. Un matin, le PDG s'est réveillé, il avait été racheté par les fonds de pension américains, il n'était pas au courant. À qui appartient maintenant la rue de la République à Marseille? Ça a déjà culbuté trois fois. Alors, pendant ce temps, on fait le tramway. Pendant ce temps, on fait les élections municipales. Pendant ce temps, j'entends le mot « transparence ». Attendez, mais où on est? Donc, c'est l'illusion absolue qui continue, l'illusion de l'Église, l'illusion prométhéenne, l'illusion de l'entreprise. Et pendant ce temps, la planète est en train d'être détruite pour le plus grand profit. Mais c'est même... nous, avant, c'était commode. Il y avait M. Michelin qui était un salaud de patron. Maintenant, il n'y a même plus les Golden Boys. Ça se passe à Guernesey entre deux ordinateurs qui sont connectés. Attends, le mec de la Société Générale, c'est extraordinaire. Voilà un sous-couillon de 14e catégorie qui fait sauter la moitié de la planète. C'est extraordinaire. Ça devrait leur donner des leçons. Ça veut dire qu'on est... Vous savez ce que c'était les gyroscopes, là? Vous savez, quand vous avez un gyroscope qui entraîne lui-même sa propre entraînaison, là, ça, le mouvement sans fin, giramento perpetuale, ça s'appelle. Hein, ça tourne comme ça, comme une toupie. Ouais, on est des toupies. Plus personne ne maîtrise ça. Plus personne ne maîtrise ça. Voilà, allez. Amen. Amen.
Alors, Dany Robert Dufour, votre livre « Le divin marché » démontre en quoi le système libéral devient à la fois une entreprise politique, culturelle et économique. Alors, en quoi l'art subit aussi le dogme libéral? Vous parlez dans votre livre de « Comédie de la subversion ».
Chacun y va de son exhibition égotique particulière. Ça part un petit peu dans tous les sens où chacun veut bien exhiber un peu ce qu'il a exhibé. Et ce qu'il exhibe souvent, ce sont non pas des éléments qui sont des éléments construits, mais on le voit aussi ça dans l'art actuel, par exemple dans le lieu de la danse, de la performance, c'est souvent de l'ordre de l'exhibition, au sens de l'exhibition pulsionnelle. Avec, vous vous souvenez ce qui s'est passé à Avignon, par exemple, je crois que c'était en 2005 ou 2006, je ne sais plus très très bien, mais qui a provoqué quand même une polémique sérieuse, puisque certains ont noté qu'on était passé de la représentation à la présentation directe, qui est la présentation pulsionnelle directe. C'était Yann Favre qui avait été l'artiste invité, qui a eu une exhibition forte chez lui de choses un peu, disons, obscènes au sens théâtral du terme, c'est-à-dire des choses qui en principe restent sur la scène et qui là sont montées sur la scène. Donc on pouvait pisser, chier sur scène, se masturber sur scène, saigner sur scène, etc. Donc c'était exhibition pulsionnelle directe, sans discours, si vous voulez. Monstration, quoi. Et donc, ça fait partie, à mon avis, de cette reconfiguration générale des pratiques artistiques dans lesquelles nous sommes. Bon, il y a ça d'un côté, mais il y a un autre aspect qui a à voir avec la reproduction à l'infini du geste de Marcel Duchamp. Vous savez, Marcel Duchamp qui avait exposé au Salon des Indépendants à New York en 1913 un urinoir qu'il avait appelé Fontaine. Ça avait été un geste, à mon avis, magnifique, hein, puisque ça interrogeait beaucoup de choses, la question de la représentation, la question de l'objet, la question de l'argent dans l'art, etc. Et tout ça était donc un geste extraordinaire et unique. Et puis tout ceci a été repris dans les années 60 sous la forme du ready-made et redéveloppé jusqu'à nos jours maintenant, si bien que nous assistons à une sorte de répétition infinie du geste subversif. Et c'est ça que j'appelle la comédie de la subversion. Parce qu'on fait comme si on était subversif. On est tenu donc d'être subversif. On est tenu d'être subversif justement en exposant toujours plus ce qui est de l'ordre du pulsionnel. Alors, c'est ça qui crée un peu les conditions, ces deux éléments qui créent les conditions de la reconfiguration du milieu artistique, plus le troisième et dernier élément, qui est la spéculation sur l'art. Lyotard, qui a beaucoup travaillé sur le postmoderne, vous savez, Jean-François Lyotard, qui faisait remarquer dans les années 70 que le sublime était passé du l'art, de l'art à la spéculation sur l'art. Et c'est au fond ce qui se voit maintenant avec les immenses collections qui recueillent au fond tout et n'importe quoi. Il y a des choses magnifiques dedans, mais il y a aussi du n'importe quoi. J'avais été visiter l'exposition Flick à Berlin, je vous assure que ça vaut le détour, parce que c'était des kilomètres de roues brisées, de peignes auxquelles il manquait des dents, et qui représentaient autant d'objets que la signature de l'artiste dessous attestait comme étant participant du champ de l'œuvre d'art. Reach out, touch faith.
Alors pour vous, Daniel Robert Dufour, le marché est une nouvelle bête inquiétante. Vous écrivez aussi que nous sommes, alors je suppose les hommes, sont malades du libéralisme et subissent une double aliénation. Alors qu'est-ce que c'est que cette double aliénation ?
Malades du libéralisme, nous le sommes effectivement, mais on a toujours été malades, toujours. On a été malades de l'oppression que faisaient subir les dieux sur les hommes. On a été malade des oppressions que des régimes de religion politique faisaient subir sur les hommes. Je pense par exemple aux religions politiques de la monarchie absolue. On a été malade du communisme au XXe siècle. On a été malade du nazisme. Comme le dit Freud, la civilisation n'est qu'un long malaise. Hein. Alors maintenant, il y a une nouvelle forme de maladie qui s'appelle effectivement le libéralisme. C'est une maladie particulière et spéciale parce qu'il était supposé nous sauver en nous apportant la liberté, en libérant nos passions et nos pulsions. Et on s'aperçoit que cette libération, contrairement à tout ce qu'on croyait, amène de nouveaux effets qui sont des effets pervers. Au fond de tout ça, finalement, si vous voulez, on était tenu autrefois par les grandes figures divines, hein, les dieux, etc., qui nous interdisaient ceci ou cela. Maintenant, on est tenu par les objets. On était tenu par le haut, maintenant on est tenu par le bas. On court comme des grands troupeaux de consommateurs. J'en parle dans mon livre, dans Le Divin Marché, de cette constitution de grands troupeaux de consommateurs que j'appelle des troupeaux égaux grégaires, puisqu'ils ont l'impression d'être libres en attrapant tel ou tel objet. Mais en fait, ils sont tous mis en troupeau parce qu'il y a un formatage de ce qu'on pourrait appeler leur pulsion, leur économie libidinale, leur double aliénation, parce que donc on a une première aliénation par le marché, et puis donc la seconde aliénation, c'est quand on est déçu de tout ça, il y a un retour des anciennes religions qui viennent combler le manque qui est produit par le marché. Donc ce sont des religions de consommation, ce qu'on voit déferler dans le monde à l'heure actuelle, sous la forme des intégrismes, des fondamentalismes, des néo-évangélismes, néo-pentecôtismes, etc., etc. C'est-à-dire la religion du marché à plein, plus pour se consoler des effets pervers que ça produit, les anciennes religions relookées, etc. Alors moi je ne suis pas contre la quête religieuse que peuvent avoir les individus, mais en tant que philosophe, je me dis que nous sommes là sous l'emprise de deux religions qui s'étayent l'une l'autre, une religion un peu folle qui est celle du marché, et puis une religion pour besoin de consolation pour les braves névrosés.
Et pourtant, dans les démocraties libérales, les hommes se croient libres.
Mais ils se croient libres parce qu'on leur dit « désirez ce que vous voulez, on vous le donnera, et vous êtes libres de choisir ». Mais en fait, je crois que tout ceci est doublé d'une fantastique aliénation, notamment d'aliénation aux objets, et pour masquer cette aliénation, on a tout un discours de la liberté. C'est pour ça que le capitalisme à l'heure actuelle, quand il veut s'exporter dans le monde, se double d'un discours de la démocratie. Vous voyez ce qui s'est passé en Irak. On leur apportera les bienfaits du capitalisme et les bienfaits de la démocratie. C'est maintenant jumelé. Hein. Mais en fait, les individus ne sont pas libres, puisque c'est une nouvelle modalité d'aliénation à des slogans, aux objets, à un discours tout fait. Donc c'est tout le contraire pour moi de la liberté. Je crois qu'on est loin du compte par rapport à cette question de la liberté qui est pourtant vantée et promise dans les démocraties occidentales. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris en plein dans la... la gueule des flics au regard surpris. Quand ça gueule du sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur l'écran intelligent. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qu'a le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui
vous défendez l'idée que le libéralisme est porté par un ensemble de forces politiques qui vont de la gauche libertaire à l'extrême droite libérale. C'est pas un peu exagéré ?
Je ne crois pas du tout, non. Je ne crois pas du tout parce que...
Dany Robert Dufour.
Il y a une façon de droite d'être libérale qui porte globalement sur les mécanismes économiques et une version de gauche qui porte sur les mécanismes culturels. Donc en jouant ce que j'ai appelé donc la comédie de la subversion. Et je crois qu'au fond, le capitalisme à l'heure actuelle me semble se trouver aussi bien dans la droite que dans la gauche, voire même chez des gens qui, se situant à l'extrême gauche, se pensent antilibéraux. Par exemple, je crois que la mise en accusation du prof dans les écoles, lycées, etc., par des mouvements anti-autoritaires, que je connais bien, puisque moi-même, vous savez, j'étais fort actif en 68 et après, et donc j'ai vécu tout ça un peu de l'intérieur. Simplement, je me dis qu'à l'âge où j'arrive, il faut que je sois un peu critique par rapport à ce qu'a fait notre génération anti-autoritaire. Elle ne s'est pas aperçue combien elle a pu être instrumentalisée par ce qu'elle était censée combattre, puisqu'on est... dans la célébration de mai 1968, 40 ans après. Donc il va bien falloir que notre génération fasse un retour critique sur mai 68. C'est-à-dire que nous voulions combattre le capitalisme, nous avons mis en forme un certain nombre de propositions sur le pouvoir, sur l'autorité, etc. Et nous ne nous sommes pas aperçus combien toutes ces propositions pouvaient servir, non pas l'ancien capitalisme, mais une nouvelle forme de capitalisme qui s'est mise en place justement à partir des années 70, et qu'on appelle ce capitalisme désinstitutionnalisé, dérégulé. Donc on a réussi effectivement à ébranler l'ancien capitalisme régulé, keynésien, gaullien, qu'on avait en France avant 68, et c'était bien, il fallait le faire. Il fallait absolument le faire, donc il fallait absolument que 68 ait lieu, mais en même temps, on a été pris dans une instrumentalisation de cette lutte. Alors en termes hegeliens, on appellerait ça une ruse de l'histoire. Une ruse de l'histoire, ça veut dire que des gens finissent par accomplir des objectifs, évidemment sans le vouloir, des objectifs absolument opposés à ceux qu'ils s'étaient fixés. Voilà.
S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus.
tu es un hippie.
Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Danny Robert Dufour qui dit que le libéralisme, en fait, est porté par un ensemble de forces politiques qui vont de l'extrême gauche libertaire à l'extrême droite libérale?
Je pense que le...
Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique.
Le pinceau est un peu trop gros entre l'extrême gauche libertaire et l'extrême droite libérale. À vrai dire, je pense que les libéraux ne sont ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, qu'ils sont en général de bons centristes et que le libéralisme est exprimé et défendu avec presque autant d'efficacité par quelqu'un comme Nicolas Sarkozy ou Alain Madelin et quelqu'un comme Pierre Moscovici ou Pascal Lamy. L'extrême gauche et l'extrême droite ont tendance à être plus critiques du libéralisme pour des raisons qui sont fort différentes dans un cas et dans l'autre.
L'argument de Danny Robert Dufour, c'est que dans les années 60, donc l'extrême gauche aujourd'hui dite antilibérale, s'est faite le vecteur des idées libérales parce qu'elle a promu la destruction de tout contrôle institutionnel. Et donc mai 68 aurait permis la dérégulation et le passage d'un capitalisme régulé à un capitalisme dérégulé.
Oui, enfin bon, mai 68 est un peu chargé de tous les péchés depuis quelques années. Il peut y avoir une coïncidence des facteurs qui n'implique pas nécessairement une corrélation. Ça n'est pas parce qu'après mai 68 un certain nombre de choses se sont produites que c'est mai 68 qui les a enfantées ou engendrées. Comme vous le savez, mais comme Danny Robert Dufour le sait aussi, mai 68, ça a d'abord été les plus grandes mobilisations ouvrières et les plus grandes grèves de l'histoire de France. Il est difficile de tirer de ces manifestations ouvrières et de ces grèves l'idée d'une fatalité ou d'une inévitabilité d'une évolution libérale. Je crois que l'évolution libérale est effectivement intervenue, qu'un certain nombre des artisans les plus médiatisés de mai 68 y ont concouru, mais je ne suis pas certain que mai 68 a été indispensable dans cette affaire. Après tout, beaucoup de pays n'ont pas connu mai 68 et ils ont connu une évolution à peu près comparable. Bon, aux États-Unis, on peut dire qu'il y a eu un mouvement étudiant, mais ça n'avait pas du tout la même structure de protestation que le mouvement de mai 68. Vous avez eu un mouvement qui était essentiellement étudiant, jeune, un mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, mais assez peu un mouvement de grève comme celui qu'on a connu. Et pourtant, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Espagne même, qui n'a pas connu mai 68 puisqu'elle vivait sous le joug franquiste à l'époque, eh bien vous avez une structure politique qui est assez proche avec une gauche qui ne cesse de tenir des discours libéraux, de célébrer les marchés, de combattre le populisme, le protectionnisme, de dire sa foi dans le libre-échange, et puis une droite qui tient un discours qui n'est pas très différent, mais qui ajoute à ce discours libéral classique un certain nombre d'éléments autoritaires, de contrôle social, et dans le cas des États-Unis, de guerre des civilisations.
Et que pensez-vous de l'idée selon laquelle le libéralisme serait devenu un dogme, voire même une nouvelle religion ?
C'est à la fois vrai et insuffisant. C'est vrai dans la mesure où il a été défendu avec parfois quelque chose qui s'apparentait à une foi religieuse. On avait déjà observé au XIXe siècle avec le libre-échange, où il y avait un véritable mouvement de masse, des organisations qui agitaient en ce sens et qui étaient convaincues de défendre une cause presque sacrée. Je crois qu'au-delà de cela, aujourd'hui, il y a la réalité quotidienne qui impose ces cadres de référence, qui impose un certain nombre de critères d'analyse et qui rend tout dépassement du système difficile parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus le droit de le penser. Donc il y a à la fois ceux qui ne souhaitent pas qu'on en sorte et ceux qui se disent qu'il est impossible d'en sortir. Et je crois que c'est la conjonction de ces deux courants qui donne au libéralisme sa force actuelle, jusqu'au jour bien sûr où des événements du type de celui de la crise financière qu'on est en train de connaître obligent à une remise en cause des vérités entre guillemets les plus établies.
Et sur quoi est fondée la naturalisation du discours sur l'économie de marché ?
Ben, vous connaissez peut-être la phrase d'Alain Minc, il y en a eu 150 000 du même genre. Je ne sais pas si les marchés pensent juste, je sais qu'on ne peut pas penser contre le marché. Et il assimilait le marché à un phénomène météorologique, en quelque sorte à une bourrasque ou au soleil, une espèce de phénomène contre lequel on ne peut pas agir, on ne peut que subir ou que profiter ou que s'accommoder. Bon, je crois que ça c'est un discours qui est très fort, qui contribue à la pérennité du système actuel. Ce sentiment qu'il va dans le sens de l'histoire. Bon, il y a une période où dans les régimes communistes, on avait aussi le sentiment que l'évolution sociale à laquelle on était arrivé en Chine, en Union soviétique ou au Vietnam, allait dans le sens de l'histoire, qu'après l'esclavagisme, après le féodalisme, après le capitalisme, il y avait le socialisme et demain il y aurait le communisme. Eh bien, dans l'esprit des libéraux, après un certain nombre d'expériences plus ou moins malheureuses avec l'intervention étatique, qu'il s'agisse du keynésianisme dans les États capitalistes ou bien de l'économie planifiée dans les pays dits socialistes, on en est revenu à une évolution qui est plus saine, qui s'apparente à celle du libéralisme à ses débuts, et qui correspond, pro ou prou, en tout cas c'est ce qu'il pense, à l'intérêt du plus grand nombre. Quand vous avez une conviction de ce type-là, quand vous avez des institutions aussi puissantes que le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, l'accord de libre-échange nord-américain qui vont toutes dans le même sens, évidemment, il est très difficile de se dégager de ce genre de pression. J'ajoute que quand vous écoutez la radio, il est assez frappant de voir à quel point les cours de la bourse sont annoncés un peu comme un phénomène météorologique. On a le sentiment, ou on donne le sentiment aux gens qu'il faut que toutes les heures, ils sachent comment se comporte le marché et qu'il faut que les gouvernements s'emploient en permanence à apaiser les frayeurs des marchés et à rassurer les investisseurs.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. And if they don't want now, they can stop me. Look like cookie boxes. In my heart a hurricane's blowing. In my head a clock ticks. Tick-tock, tick-tock. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo.
Serge Halimi, vous avez préfacé le livre de Thomas Frank, Pourquoi les pauvres votent à droite, sorti chez Agone, donc un livre qui analyse ce paradoxe aux États-Unis. Et votre préface s'intitule Résonance française. Alors comment se fait-il selon vous que les pauvres votent à droite ?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments pour le dire rapidement. Il y a d'une part sans doute l'abandon des catégories populaires par les formations de gauche traditionnelles. Ça a été le cas du Parti démocrate aux États-Unis, ça a été le cas du Parti socialiste en France ou du Parti travailliste au Royaume-Uni. À mesure que ces formations se sont embourgeoisées et ont eu comme volonté principale de séduire ce qu'elles assimilaient au centre politique, qui souvent correspondait aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures, eh bien elles ont voulu rompre les liens qui les soudaient autrefois au monde du travail et en particulier au monde syndical. Donc cette distance est apparue au moment où, de son côté, la droite a mesuré qu'un certain nombre des réformes, je ne dirais pas sociales, mais plus de type sociétal, liées à l'égalité raciale, liées à l'égalité entre hommes et femmes, liées à la défense du droit des homosexuels, liées au combat contre la religion, avaient aliéné une partie de l'électorat populaire, qui se sentait à la fois menacé par l'évolution économique et menacé par la mise en cause d'un certain nombre de convictions auxquelles cet électorat populaire était très attaché. Donc cet électorat populaire a accordé un intérêt particulier au discours poujadiste, démagogique de la droite, et a accordé d'autant plus d'intérêt à ce discours que, de son côté, la gauche, ou en tout cas une partie de la gauche, celle qui est représentée par le Parti démocrate aux États-Unis et par les formations social-démocrates en Europe, se sont détachés d'un discours de combat social contre les inégalités et se sont de plus en plus concentrés sur un discours sociétal de type antiraciste, métissage, dialogue des cultures, émancipation des femmes, droits des minorités, etc., qui étaient des discours qui n'avaient pas nécessairement une très grande résonance dans une partie substantielle de l'électorat populaire. Je crois que c'est la conjonction de ces deux facteurs, mais encore une fois, là, vous me demandez de faire très vite, le livre de Thomas Frank donne beaucoup d'autres pistes. Je crois que c'est la conjonction de ces facteurs, l'éloignement du peuple de la gauche et en quelque sorte le discours poujadiste de la droite servi par un certain nombre d'évolutions sociétales qui effrayaient les milieux populaires, qui a contribué en France comme aux États-Unis à la victoire de la droite. On l'a vu en France il y a très peu de temps avec l'élection de Nicolas Sarkozy, donnant le sentiment qu'il passait sa vie dans les usines pour exprimer le point de vue de l'homme ordinaire.
Dans votre préface, vous indiquez aussi, au rang des facteurs, le fait que la droite, plutôt, cherche à diviser les catégories sociales qui subissent de plein fouet les politiques libérales.
La droite cherche à présenter les acquis d'un certain nombre de groupes des milieux populaires, disons par exemple les Noirs aux États-Unis ou les personnes d'origine nord-africaine en France, comme obtenus en quelque sorte au détriment des petits blancs, pour le dire rapidement, en France et aux États-Unis. C'est un peu le discours qu'a tenu Le Pen aussi pendant des années, et elle explique aux petits blancs que finalement, si leur niveau de vie se dégrade, c'est parce qu'ils subissent de plus en plus la concurrence des immigrés sur le marché du travail, mais aussi sur le marché matrimonial, mais aussi à l'école, et c'est cette opposition qui joue un rôle assez significatif. L'idée, il n'y a plus rien pour nous et on fait tout pour les autres. Bon, c'est un discours qui est assez ancien. Il faut rappeler que dès les années 60, c'était le discours de Ronald Reagan quand il cherchait à se faire élire gouverneur de Californie, ce qu'il a d'ailleurs obtenu en 1966. L'idée, vous voyez, les impôts que vous payez, vous les ouvriers, vous les employés, servent à financer des dépenses sociales qui profitent aux Noirs et aux immigrés. Bon, il est certain que ce type de discours n'est pas sans écho, et il est d'autant moins sans écho qu'on évolue dans un contexte économique où globalement une partie croissante de la valeur ajoutée s'est déplacée du travail vers le capital. Donc comme il y en a eu de moins en moins pour le travail, que les conditions d'existence se sont dégradées, eh bien il y a eu la naissance d'un mécontentement qu'il n'a pas été après très difficile de détourner vers ceux qui n'avaient aucune responsabilité pour ce transfert de la valeur ajoutée du travail vers le capital, c'est-à-dire les catégories populaires, mais d'origine immigrée ou aux États-Unis, les Noirs et les Hispaniques. S'il n'y avait pas un mécontentement social lié à la baisse du pouvoir d'achat des catégories populaires, ce ressentiment jouerait beaucoup moins. Vous voyez, pendant la période des années 60, pendant la période des 30 glorieuses, eh bien, les ouvriers américains, les employés américains, blancs, voyaient leur niveau de vie progresser, et en quelque sorte les conquêtes obtenues par le mouvement des droits civiques leur semblaient en quelque sorte moins menaçantes dans la mesure où précisément leurs propres conditions d'existence s'amélioraient. C'est quand vos conditions d'existence se détériorent que vous avez tendance à vous demander si d'autres, eux, ne sont pas en quelque sorte les acteurs ou les bénéficiaires de la détérioration de vos propres conditions d'existence.
Alors pour expliquer aussi donc pourquoi les classes populaires votent pour des politiques libérales, un autre élément pour comprendre dans la rhétorique donc libérale et plutôt de droite, la cible, c'est ce que vous écrivez aussi, est davantage l'élite culturelle et non l'élite de l'argent, pas le monde des affaires en fait.
Absolument. Il est certain que si vos conditions matérielles se dégradent et que vous voyez à la télévision des artistes milliardaires qui vous montrent du doigt en vous grondant ou en vous gourmandant parce que vous n'êtes pas assez ouvert à l'extérieur, ouvert à la mondialisation, ouvert au métissage et ouvert en quelque sorte au combat antiraciste ou pour l'environnement qui sont les leurs, eh bien vous avez parfois un sentiment de colère en vous disant que vous n'acceptez pas que ces gens-là qui ont eu en quelque sorte tous les avantages, qui bénéficient de toutes les rémunérations les plus fastueuses, prétendent en plus vous inculquer des leçons de morale et vous reprocher votre propre comportement. Et il est certain qu'à mesure que la gauche s'est éloignée des milieux populaires et a passé son temps à courtiser le show business, le monde de la culture, eh bien, avoir des candidats de gauche qui passent beaucoup de temps avec Bernard-Henri Lévy, comme dans le cas de Ségolène Royal, et qui hésitent à employer un langage où il y aurait les termes d'ouvrier, d'inégalité, d'injustice sociale, eh bien, c'est un discours qu'il est difficile de vendre, entre guillemets, à un électorat populaire qui est mécontent et qui aimerait qu'on s'occupe de lui davantage que des humeurs de quelques intellectuels parisiens.
C'était Serge Halimi qui a donc préfacé le livre de Thomas Frank, sorti chez Agone et intitulé « Pourquoi les pauvres votent à droite ». Au cours de cette émission sur le dogme libéral, vous avez aussi pu entendre le politologue Bruno Etienne et le philosophe Dany Robert Dufour, auteur du Divin Marché, paru chez De Noël. Ma foi, la thématique sur les croyances, les religions et les identités, c'est tous les jours à 18h jusqu'à dimanche. Rendez-vous demain, à 18h donc, pour une réflexion autour de la notion de rituel à travers le prisme de la psychologie. Bye.